La main de l'Éternel reposa sur Élie qui noua sa ceinture et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jisrael. 1 Roi 19.1 Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. » Alors, un texte et une introduction qui soulève des questions. Il est question du Dieu d'Israël, l'Éternel, il est question du prophète Élie. Si bien, la semaine dernière, on avait terminé là-dessus, qui viennent vous faire un bain de sang. Il est question du roi Akab et de sa femme Jézabel. Et Jézabel veut venger les prophètes. Mais curieusement, elle ne veut pas le faire tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? La main de l'Éternel reposa sur Élie, qui noua sa ceinture, courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jisrael. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain à la même heure je ne te fais pas comme tu leur as fait. » Contexte, pour comprendre un texte, il faut comprendre un petit peu le contexte, et le voici. Depuis que le grand roi Salomon s'était incliné devant les idoles, entraîné par ses trop nombreuses épouses, rien ne va plus en Israël. Le royaume a été séparé en deux. Et ici nous sommes au royaume du Nord. On voit une succession de rois, une succession de coups d'État, une succession de père en fils, de roi, et au fur et à mesure que les rois passent, cette constatation est faite, on s'éloigne de plus en plus du culte de l'Éternel. Voilà ce qu'on lit en 1 Roi, chapitre 16, versets 29 à 33. Je vous fais la lecture. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda, donc au sud. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme si ce n'était pas pour lui peu de choses que de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, empêché d'aller à Jérusalem, il prit pour femme Jézabel, fille d'Étabaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Et il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il a bâti à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà la situation. Baal est le dieu de la prospérité. Il est le dieu qui donne l'abondance, qui permet d'avoir de bonnes moissons, du bétail fertile. C'est le dieu de la prospérité à ce moment-là. Et quel est finalement le dieu qui donne la prospérité aux Israéliens? Ils sont dans une phase, c'est vrai, assez prospère. Est-ce Baal ou est-ce l'Éternel? L'Éternel va susciter un opposant, on pourrait dire de nos jours, un contre-pouvoir à Akab dans la personne de son prophète Élie, qui va le trouver et lui dit « Maintenant, à partir de maintenant, il n'y aura plus de pluie, plus de rosée en Israël, jusqu'à ma parole, jusqu'à ce que décide que je dise que cela cessera. » Et c'est ce qui se produit. Et les Israélites doivent subir une terrible famine, une sécheresse pendant plus de 3 ans, plus rien, le pays plongé dans la famine. Et est-ce que cela va changer quelque chose? Apparemment, rien. Le peuple est toujours incapable de prendre parti entre Baal et l'Éternel, son Dieu. Ils ne savent pas choisir. Nous avons vu la semaine dernière Élie proposer un défi, un duel, lui contre 450 prophètes de Baal. On a lu ce récit passionnant. Le Dieu qui embrasera l'holocauste qui lui est préparé, ce Dieu-là sera le vrai Dieu. Et le peuple est d'accord. Et l'Éternel, bien sûr, est le seul qui répond à la prière de Élie. Baal est complètement absent, c'est normal, c'est une idole, c'est un faux dieu qui n'existe pas, incontestablement. Nous sommes terminés sur ce constat la semaine dernière, incontestablement, l'Éternel est le vrai Dieu. L'Éternel est le vrai Dieu. Et dans la foulée, Élie égorge à lui seul quelques 450 prophètes de Baal qui se trouvaient là. Et ici, on pouvait être choqué un petit peu. Certes, selon la loi de Moïse, selon Deutéronome chapitre 13 et 18, c'était ce qu'il fallait faire. Les faux prophètes doivent mourir en Israël. Il n'y a pas de place pour des faux prophètes en Israël à ce moment-là. Mais était-ce le rôle d'Élie que de les mettre à mort? On peut se poser la question. Et est-ce là l'image que nous devons retenir de l'Éternel? Un Dieu qui serait sanguinaire et qui ressemblerait d'un certain côté à Baal? C'est la question qui se pose. Et le texte qui suit, le texte d'aujourd'hui, donne une réponse à cette question qui va se faire à travers un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger, qui a parlé au Élie et qui peut-être va nous parler à nous aussi ce matin dans cette salle de culte. Un murmure doux et léger. Lisons la suite du texte. Chapitre 3, chapitre 19, versets 3 à 5. Voyant cela, la menace de Jézabel, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute la journée dans le désert. Puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, rends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et il s'endormit sous un genêt, comme le texte est pris. Une victoire déprimante. Une victoire déprimante. Comment Élie est-il passé en 24 heures de la plus grande des victoires que l'on pouvait imaginer de Dieu face à l'idolâtrie à la plus sombre des dépression. Il y a, il me semble, quelques indices dans notre texte pour pouvoir répondre à cette question. Je crois que Élie s'attendait à la conversion de Akab. Il s'attendait à ce que le roi renonce à l'idolâtrie à ce moment-là. Parce qu'on le voit, quand Akab rentre vers Jisraël, il court, il veut être devant, il veut être là à Jisraël même avant que le roi n'arrive. Et il ne se cache pas du tout, pour lui, ça y est, c'est une affaire conclue, l'Éternel est le roi, est le seul Dieu d'Israël, et ce n'est pas tout à fait, hélas, ce qui se passe. Le roi est en effet l'homme clé pour faire appliquer la loi de l'Éternel. C'est l'homme clé pour juger les faux prophètes, c'est l'homme clé pour faire détruire les statues des idoles. Mais Akab est plus influencé par sa femme Jézabel que par le prophète Élie. C'est clairement ce que nous dit le texte. Dans les faits, hélas, on constatera quelques chapitres plus loin que le temple de Baal qui a été construit à Samarie est toujours en place. Et quelque part, on peut comprendre que le prophète Élie a tout de même un sentiment d'échec devant la réaction de Akab. il présente déjà une continuité spirituelle qui va aller en décroissant par rapport à Israël. Mais c'est quelque chose qu'il voit avec ses propres yeux. On voit dans le texte, quand le texte va suivre, il va y avoir un vrai changement en Israël. Sa victoire va vraiment porter des fruits. Mais à ce moment-là, Élie ne perçoit plus cela. Non seulement Akab ne se convertit pas, mais il ne va même pas lever le petit doigt pour protéger Élie des foudres de Jézabel. Élie, vous en venez, Élie va à son tour expérimenter la peur qu'avaient connue les prophètes de l'Éternel, la peur qu'avait connue Abdias quand il devait aller affronter le roi Akab et lui parler de la seule venue de Élie. À son retour, en revenant de Sarepta, il avait pris un petit peu de haut la crainte et la peur de Abdias. Et maintenant, le voilà, lui, en train de fuir devant Jézabel, devant une femme qui n'est même pas une femme du pays. Il subit là vraiment une sorte d'humiliation. Et troisièmement, Élie est seul. Affronter des échecs, des difficultés est quelque chose de difficile, mais quand on est seul, quand on n'a pas de lien familial, quand on n'a pas d'amis pour être consolé, c'est quelque chose de difficile. Heureusement, Dieu va venir au secours de son prophète dans la suite. Lisons les versets suivants. Chapitre 19, versets 5 à 9. Voici, donc, Élie, il se coucha et s'est endormi sous ce genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Élie regarda et il vit au chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit, « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Là, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Élie veut faire un retour aux sources. Dieu va venir au secours de son serviteur. On peut imaginer Élie épuisé émotionnellement, physiquement, mentalement. Il a besoin de deux choses, de manger et de dormir. De se reposer, tout simplement. Les besoins de notre corps et de notre âme ne sont pas en compétition. Ils sont, eux, ensemble, au service de Dieu. Et là, il a besoin de faire le plein de repos et de nourriture. Et lui suit le pays d'Israël pour aller à la rencontre de Dieu. Et Dieu pourvoit aux besoins d'Élie pour cela. Dieu veut aller rencontrer, Élie veut aller rencontrer Dieu à Horeb. Cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Et c'est ce qui s'est produit. Dieu donne ce qu'il faut à Élie pour venir à sa rencontre à Horeb. Horeb, c'est le lieu où Dieu a rencontré initialement son peuple. C'est là, dans ce lieu-là, que le peuple a reçu les tables de la loi écrites de la main de Dieu. C'est là où a été scellée l'alliance de Dieu avec son peuple. C'est là aussi qu'il y a eu la première rébellion, avec la fabrication du veau d'or par Aaron, et c'est là qu'a eu lieu le jugement de l'idolâtrie, mais aussi le lieu, c'est le lieu du pardon, et c'est le lieu du nouveau départ pour le peuple, Horeb. Il est à Horeb, donc maintenant, à la fin du verset 9. Disons la suite. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels. Ils ont tué tes prophètes par l'épée. » C'est Jézabel, en l'occurrence, qu'il avait fait. « Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel dit, sors, tiens-toi sur ma montagne, devant l'Éternel, et l'Éternel va passer devant. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure. Un murmure tout léger. Quand il entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle devant l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée, et je suis resté seul, moi, et ils cherchent à m'enlever la vie. » Exprimer son problème à Dieu. La façon dont Dieu accueille Élie, là, à Horeb, a de quoi le surprendre. Que fais-tu ici ? Peut-être on a tous été enfants et des fois, vous savez, nos parents, ils nous disaient, poser une question. Et les questions de nos parents, ouf, attention, qu'est-ce que ça signifie ? Dieu est redoutable quand il pose des questions. C'est ainsi qu'il commence les discussions avec les pécheurs. On constate souvent cela. À Adam, il lui dit, où es-tu ? À Caïn, où est ton frère ? À Aaron, que t'a fait ce peuple ? Pour lui avoir fait un veau d'or. À Saül, qu'est-ce que le bêlement de... Qu'est-ce que ce bêlement de bélier, de vache que j'entends à mes oreilles ? Si vous connaissez ces histoires. Et bien plus tard, aux experts de la Torah, Jésus dira, n'avez-vous pas lu ? Pour commencer avec eux les discussions. N'avez-vous pas lu ? Dieu commence à... Qu'est-ce que tu fais, Élie ? Et Élie répond, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels. Ils ont tué tes prophètes par l'épée, je suis resté, moi seul. Ils cherchent à m'enlever la vie. C'est vrai que de façon publique, Élie était le seul prophète en activité, on pourrait dire, cette expression-là. C'était le seul qui faisait le job de prophète, qui parlait de la part de l'Éternel à ce moment-là. Mais quand même, on voit que cette déclaration cloche un peu et pas... Il y a des petits problèmes avec la narration que l'auteur inspiré par le Saint-Esprit a fait de cette histoire. Il y a des petits problèmes, on va y revenir. En tout cas, maintenant, il reste
à Élie à écouter la réponse de Dieu. Comme Moïse, naguère, Dieu va faire passer devant Élie. Il va passer devant Élie. Il y a beaucoup de parallèles entre Élie et Moïse. On aura l'occasion sans doute d'y revenir. Nous apprenons que Dieu n'est pas dans les phénomènes les plus terribles, l'ouragan, le tremblement de terre, les incendies, mais dans une voix légère, comme un silence. Dieu utilise une petite voix pour parler à son prophète, et certainement pour parler à nous aussi, une petite voix. Élie est prêt à écouter attentivement la réponse de Dieu, qui commence avec la même question que précédemment. Que fais-tu ici? Et il dit la même chose. Et la réponse de Dieu est surprenante. Versets 15 à 18, on n'a pas fait la lecture, je crois. L'Éternel dit, va, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Azaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Japhat d'Abel-Méola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée d'Israël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié le genou devant Baal, et dont la bouche ne l'a pas embrassé. La réponse de Dieu est celle-ci, repart, en quelque sorte, repart. Je vais m'occuper du roi Akab et des Israélites idolâtres en mon temps et à ma façon, sois rassuré. Et personne ne pourra échapper. Il lui dit, je vais te remplacer. Mais avant cela, tu vas avoir un petit travail à faire quand même. Le remplacement d'Élie par Élisée fait penser au remplacement de Moïse par Josué. Moïse avait fait une petite erreur de parcours. À un moment donné, une petite chose comme ça, une petite désobéissance qui lui avait empêché de rentrer dans le pays d'Israël. À la porte du pays, c'est Josué qui devait conduire la conquête. Cela fait passer également au remplacement, ou à la succession, ce serait peut-être mieux de parler ainsi, de Jean-Baptiste par Jésus. On pourra développer tout ça une autre fois. Alors, quelle a pu être l'erreur de Élie? Vous avez peut-être des opinions différentes, le texte ne le précise pas, on a un texte narratif. Mais quand même, il me semble que le problème de Élie, c'est qu'il s'est cru seul. Il s'est cru seul, sans allié, sans vis-à-vis, et que la situation spirituelle d'Israël dépendait de lui seul. Pourtant, deux fois, dans notre texte, il est précisé qu'Abias craignait beaucoup l'Éternel et il avait sauvé la vie à 100 prophètes. Et on fera la connaissance de ces prophètes dans les chapitres qui vont, ils sont là. On fera la connaissance de Michée, lui aussi un homme courageux qui avait été peut-être inspiré par l'exemple de Élie. Et Dieu annonce que 7000 hommes n'ont pas été idolâtre. C'est une bonne nouvelle pour Élie, certainement. Non, Élie n'était pas seul, contrairement à ce qu'il pensait. Malgré les apparences, Dieu garde le contrôle et sauve qui veut. Mais comme l'histoire d'Élie nous l'enseigne, nous sommes étroitement associés à l'œuvre de Dieu, bien que ce soit pour nous, pour moi, quelque chose d'incompréhensible. Dieu fait son œuvre, mais il l'a fait à travers nous, avec nous. Élie va s'exécuter. Voyons la fin de notre texte. Élie partit de là, verset 19, et trouva Élisée, le fils de Japhat, en train de labourer. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et lui-même se tenait près de la 12e. Et il s'approcha de lui, jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie. Il lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Et lui lui répondit, « Vas-y et reviens, pense en effet à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec le bois et le râtelage. Il fit cuire leur viande et la donna à manger au peuple. Puis, il se leva, suivit Élie et fut à son service. Élie s'exécute. La pluie est tombée. Il est urgent de semer maintenant. Mais Élie va répondre positivement et sans hésitation à l'appel de Dieu. Il y répond en courant. Il laisse tout là et il court. Il avertit sa famille, il sacrifie en action de grâce par rapport à son appel, j'imagine que c'est ça. Une reconnaissance à Dieu, les bœufs, l'attelage, tout son gagne-pain, tout ce qui faisait de quoi il vivait. Voilà, tout est à Dieu maintenant. Et il fait un don au peuple. Et le peuple, publiquement, est au courant maintenant de son appel. Puis il se lève, il suit Élie et il le sert. Élie a parfaitement accepté de passer la main. Et il prépare activement maintenant la formation de celui qui va lui succéder. Ils vont pouvoir cheminer ensemble, Élie et Élisée, pendant un certain nombre d'années. Maintenant, il y a quelque chose de fondamental qui a changé. Élie n'est plus tout seul. Notre texte se termine là pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé depuis le temps de Élie et qu'est-ce qu'il concerne, en quoi on est concerné par cette expérience d'Élie? Qu'est-ce que cette histoire change pour nous? Alors, ce qui n'a pas changé, c'est l'idolâtrie, c'est les idoles. Elles sont toujours là. La principale idole contemporaine qui est pointée du doigt dans le Nouveau Testament, c'est la richesse. Comme Baal à l'époque, elle dispute à Dieu le pouvoir de la prospérité. La richesse prétend pouvoir fournir de quoi manger, prétend pouvoir nous fournir de quoi nous soigner, la richesse prétend nous assurer des malheurs de la vie, la richesse prétend être la seule qui puisse nous donner le bonheur. Et comme les Israélites d'antan, on peut facilement clocher les deux pieds, certes, on sert l'Éternel, on sert le Seigneur Jésus, mais on sert aussi un petit peu à côté de la richesse. Jésus a dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Les idoles ont changé, mais elles sont toujours là. Ce qui a changé, par contre, nous avons maintenant un bon roi pour nous garder loin des idoles, pour nous que nous conservions la faveur de Dieu. Acab, c'est fini. Maintenant, nous avons un roi qui s'appelle Jésus. Et si nous sommes des sujets de Jésus, alors lui, il va nous détourner de l'idolâtrie. Il va chasser les faux prophètes qui peuvent nous entourer. Il va réduire en miettes les idoles qui se cachent dans notre cœur. Jésus est là pour nous garantir la faveur de Dieu. Pour avoir Jésus comme roi, il faut lui prêter serment d'allégeance. Ce mot est revenu à la mode avec nos terroristes là. Mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Nous agenouiller devant Jésus-Christ et lui dire, maintenant, tu seras le roi de ma vie. Et ainsi, nous serons protégés de l'idolâtrie. Depuis le temps d'Élie jusqu'à présent, la justice appartient au roi et la vengeance appartient à l'Éternel. Et le Seigneur, qui est dans le ciel, nous a pas donné mandat pour exercer la violence en son nom. Deuxièmement, donc, pour ce qui la concerne, est-ce que vous avez entendu déjà ce. On appelle ça des pipelines. Faites-le vous-même, mais pas tout seul. C'est le slogan d'une enseigne de bricolage. Faites-le vous-même, mais pas tout seul. Le Nouveau Testament nous laisse l'exemple d'Élie comme un homme zélé, fidèle, courageux pour son Dieu et surtout un grand lutteur dans la prière. Si nous sommes appelés à déployer nous aussi notre zèle, cela ne sera jamais en dehors de la communauté des croyants, jamais tout seul dans notre coin et jamais violemment. Luttons contre deux idées qui conduisent à la déprime. La réussite de mes activités ne dépend pas de mes seuls efforts et de mes qualités. L'idée que les choses dépendent que de nous. L'idée que l'on est seul. Il n'est pas bon, on le sait, pour l'homme d'être seul, ni pour la femme. Ces deux idées-là peuvent nous conduire à la déprime. C'est valable à nous en tant qu'individus, c'est valable également à nous en tant qu'Église. On a des projets, on a notre projet de la fête de Noël, mais gardons-nous de penser que cela repose que sur nous, que sur nos efforts, que sur nos capacités, que sur notre zèle. Non. Premièrement, Dieu est au contrôle. Et gardons-nous également de oublier les autres églises. On est content de pouvoir faire cette fête de Noël avec Rama. On n'est pas tout seul. Et ils ne sont pas tout seuls non plus. Et il y a d'autres églises qui font elles aussi des fêtes de Noël. Nous ne sommes pas tout seuls dans ce travail. Et il me semble qu'on ne sera pas déprimé suivant les résultats que Dieu va mettre devant nous. Faites-le vous-même, mais pas tout seul. Dernièrement, sachons entendre le murmure doux et léger de notre Dieu. Sachons entendre le murmure doux et léger de notre Dieu. Dieu a pris soin d'Élie pour lui donner la nourriture, le repos dont il avait besoin. Souvenons-nous que notre Dieu est rempli d'amour envers nous, rempli d'amour. Si nous sommes en échec, si nous sommes dans la déprime, si nous sommes dans la solitude, si nous sommes peut-être en colère, il est temps de revenir, nous aussi, à notre mont Horeb. Même si nous le savons, nous serons confrontés là à notre propre péché. Mais n'est-ce pas le péché justement notre problème? Notre Horeb n'est pas à Sinaï, ni en Arabie, ni ailleurs. Il est là où nous avons rencontré Dieu et là où nous sommes entrés dans son alliance. Il est là où nous avons aperçu son terrible jugement et où nous avons expérimenté sa grâce merveilleuse. C'est le lieu intérieur où est dressée la croix de Jésus. Mais ce lieu est à la fois proche et à la fois des fois si loin. Si je pouvais revenir comme avant, là où j'ai connu le Seigneur Jésus, si je pouvais retrouver cette joie que j'ai connue à ce moment-là C'est là, en effet, à notre Horeb que nous allons pouvoir chercher et entendre ce murmure doux et léger qui identifie la voix de notre Dieu. Puis sortir devant lui et l'écouter nous parler enfin. Notre texte s'arrête ici. Finalement, je suis à l'heure. Merci Seigneur. On va pouvoir peut-être quand même prendre quelques minutes pour nous rappeler de ces choses, ne pas passer à côté et puis passer à autre chose. On est dans un monde où les choses s'enchaînent si vite. Il faut savoir s'arrêter des fois. Et c'est l'occasion que je vous propose pendant 5 minutes de le faire et puis on ira chercher des enfants. Je vais prier. Notre Seigneur et notre Dieu, que sommes-nous pas différents d'Élie? Et il se voyait comme ses ancêtres. On a tellement besoin de toi, Seigneur. On veut confesser toute notre finitude, toute notre assurance si déplacée bien souvent. Toute la façon dont nous ne comprenons pas ton œuvre, ni les façons dont toi tu travailles et que tu veux que nous travaillions. Merci pour l'exemple de Élie. Merci pour son zèle. Merci pour ce qu'il a accompli. Merci parce que tu as pris soin de lui jusqu'à la fin. Et tu l'as béni. Nous aussi, nous voulons que tu nous bénisses. Nous voulons que tu nous remplisses de ta vie, d'être complètement à toi, loin des idoles. Merci pour cette possibilité de te retrouver seul à seul, à Horeb, pour ne plus être jamais seul. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.